Voilà. Ouh là là là. Bon, et je vais parler doucement alors, peut-être éloigner un peu le micro, comme ça va? D'accord. Alors en fait, ce n'est pas une conférence sur la voiture électrique, parce que je trouve qu'il fournit va un peu vite, parce que pour lui, la voiture de demain, c'est une voiture électrique. Alors que moi, c'était un peu la conclusion quand même, donc il m'a bousillé ma conférence. Hein? Je crois, effectivement, il n'y a pas tellement de doute là-dessus, la voiture sera électrique, on verra pourquoi. On verra pourquoi au cours de la conférence. Mais quand même, comme à l'heure actuelle, 95% des véhicules sont à moteur thermique, comme on dit, juste de l'essence, je vais en parler quand même pas mal, parler des problèmes de consommation, etc., parce que c'est évident que c'est un des problèmes qui a amené à choisir d'autres solutions. Vous connaissez Jean-Marie Vigoureux, je pense, qui vient faire des conférences de temps en temps. Vous lui rendrez grâce parce que c'est lui un jour qui m'a dit « Mais alors, la voiture qui consomme un litre au 100, c'est possible ?» Alors lui, il croyait. Je lui ai dit « Écoute, je vais chercher un peu, si c'est possible. » Et puis voilà, donc à partir de là, j'ai réfléchi à la question, etc. Et j'ai fait une conférence qui s'appelait « Peut-on consommer un litre au 100 ?» Vous aurez la réponse aujourd'hui aussi. Et puis là, j'en fais une autre un peu plus large sur le véhicule du futur, disons. Vous aurez des questions à poser, sûrement. Oui. Que je sache si je m'étire en longueur ou si je fais plus court. Hein. Je vais faire un peu plus court et puis je vous laisserai le temps de poser des questions. Ce n'est pas celle-ci, le véhicule du futur. Ça, c'est un des nombreux délires de carrossiers, on va dire, je ne sais pas comment il faut les appeler, designers. Hein. Mais ça n'est peut-être pas celle qu'on verra sur nos routes dans quelques temps. Hein. Alors, évidemment, pour parler du futur, il faut s'appuyer sur le passé, hein, parce que réfléchir à une voiture pour les années à venir, c'est un truc qu'on fait depuis très longtemps. Je vous montre ici quelques voitures qui ont des particularités. En haut à gauche, alors du coup, mon truc là ne va pas servir. Hein, je vais vous guider comme ça. Vous voyez le petit curseur là? Oui. En haut à gauche, donc, c'est une voiture qui a été faite 1914, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Par un carrossier sur une base d'Alfa Romeo, enfin de l'époque, une voiture qui roulait quand même à 140 à l'heure à peu près, hein, et qui était hyper bien profilée, etc. Elle est au musée de Compiègne, je crois, celle-là. À sa droite, vous avez une voiture bizarre avec un nez curieux, Saussema Grégoire, ça date des années 50. C'est une voiture qui a une autre particularité, elle marche avec une turbine. Donc on a aussi cherché depuis longtemps à remplacer le moteur à explosion, comme on l'appelle, par d'autres types de moteurs, dont le moteur à turbine. Il y a eu plusieurs autres choses dans le même genre. L'étoile filante de chez Renault, si vous vous souvenez de ça, etc. Il y en a eu plusieurs. Ici, en bas à gauche, un Américain, Ray Russell, qui a travaillé pendant plusieurs années sur des véhicules ultra légers. Donc il essayait tout un tas de choses, des matières plastiques, c'était le début des matières plastiques, hein, le bois. Donc il a travaillé là-dessus pour essayer de faire des véhicules les plus légers possibles et il en a fait tout un tas, j'en montre un ici. Vous voyez là, c'est peut-être pas un canon de beauté, mais enfin, ses impératifs n'étaient pas là. C'était d'essayer de faire des voitures légères. Et puis en bas à droite, j'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une 402 de la guerre. Hein. Vous savez qu'en cas de pénurie d'essence, hein, on fait ce qu'on peut et on essaye de fabriquer de l'essence à partir du charbon de bois, ce qu'on faisait donc à l'époque. C'est un petit peu lourd à traîner, hein, mais enfin, voilà. Autrement dit, on a travaillé depuis très longtemps sur l'aérodynamique, sur le moteur, sur le poids, sur le carburant, le choix du carburant, et puis éventuellement une amélioration de ce côté-là. C'est-à-dire l'essentiel des problèmes qu'on a aujourd'hui, hein, on n'a rien inventé. Et on va revoir tout ça un petit peu en détail. Ah, il y en a encore d'autres. Le tramway que vous voyez en haut à gauche, il a circulé à Nantes. Ben, petit Berlu, c'est à Nantes. Hein. Il a circulé à Nantes pendant plusieurs années. Et ces années, vous voyez, 1879 à 1917, le dernier. Pourquoi? Parce qu'après, il y a eu justement la traction électrique, il y a eu d'autres choses qui ont fait que ça n'était plus du tout rentable. Il marchait avec de l'air comprimé. Avec de l'air comprimé, ce qui n'est pas du tout habituel. On verra aussi un type qui a fait des voitures à air comprimé, mais qui était, lui, un truand. Et puis, en bas à droite, donc, la Brougham, ici, qui s'appelle Détroit Électrique Brougham, donc, qui est un moteur électrique, 1914. Donc là aussi, vous voyez, je crois que la première voiture qui a été fabriquée avait un moteur électrique. La toute première, hein, dans les années 1800, je ne sais pas combien, 80 ou choses comme ça. Donc, ce n'est pas des nouveautés. Si ça se développe aujourd'hui, c'est qu'elles ont été, tous ces trucs-là ont été barrés par le pétrole, qui ne coûte rien et qui a fait que toutes les autres solutions sont devenues n'ont pas pu survivre. Ça revient aujourd'hui parce que le pétrole coûte de plus en plus cher, il y en a de moins en moins, etc. Hein. Alors on peut encore aller plus loin dans les rêves. Une voiture, elle fonctionne sur deux dimensions. Hein. Vous suivez la route, vous n'avez pas le droit de vous envoler. Alors est-ce qu'on peut penser qu'un jour on s'envolera avec une voiture? En voici une qui vole, Terra Fugia, elle existe. Hein. Premier modèle... Ce n'est pas le premier modèle, c'est le second modèle. Le premier a même eu l'homologation. Alors, laquelle? Pour la route ou pour l'air? Eh bien, les deux. Il y a eu deux homologations. Ça, c'est les Américains. En France, il faudrait 50 ans pour avoir deux homologations sur un véhicule comme ça. Et, vous voyez, il y a deux réacteurs, là, je ne sais pas quoi, turbines, je ne sais quoi, qui peuvent se tourner vers le bas. Ça décolle verticalement. C'est extraordinaire. D'autres véhicules qui volent? Ah! Alors, Jacobs, c'est le papa de Black et Mortimer. Dites-moi, il y a quand même des amateurs de Black et Mortimer, là. Hein ? L'énigme de l'Atlantide. Tout le monde vole. Regardez, le char, il vole. Les bons hommes, ici, ils volent. Il y a tout un tas. Il y a une inventivité dans cette BD, absolument invraisemblable sur tous les véhicules. Voilà. La déesse de Fantomas, qui vole, bien sûr. Hein. La déesse, pourquoi une déesse ? Bon. C'est le mythe par excellence des années 50, comme disait Roland Barthes. Hein. Il en fait un petit chapitre de son bouquin, d'ailleurs. Hein. C'est des ailes qu'on voit là, on ne les voit pas très bien, mais si vous avez vu Fantomas, vous voyez, il roule sur la route, les ailes se déploient et hop, il décolle. Mais c'est un trucage. John Rowling, ça c'est pour les petits-enfants, voilà. Harry Potter, deuxième volume... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Alors, Harry Potter, c'était La Chambre des Secrets, c'est le deuxième bouquin, et une Ford Anglia des années 60, donc qui vole également. Et puis enfin, des voitures volantes de Luc Besson, hein, le cinquième élément. Si vous avez vu ce film aussi, ça vole dans tous les coins, ça se croise sans jamais se rencontrer, sauf pour le malheureux taxi, évidemment, qui lui a moins de chance. Alors voilà, est-ce qu'on va pouvoir voler également? Question qui se pose. Tiens, voilà les petits bonshommes volants de chez Black et Mortimer. Moi, j'étais scotché quand j'étais gosse, je lisais ça. À l'époque où c'est sorti, j'avais les yeux tout ronds, hein, j'ai jamais oublié ça. Et regardez bien si c'est d'actualité. On se croirait pas aujourd'hui? Eh oui! Voilà, c'est les petits hommes verts qu'on voit voler derrière, en gros plan. Voilà ce que ça donne. Ils avaient anticipé sur le Covid. Voilà. Donc en gros, il faut qu'on réfléchisse sur un tas de choses pour savoir ce qu'on peut améliorer dans les voitures existantes, comment ça peut évoluer. Alors j'ai déjà mis en premier les voies de circulation. Est-ce qu'on vole? Est-ce qu'on peut nager en voiture aussi? Ben, ça existe aussi. Hein. Là, ça c'est dans un film, la Lotus Esprit. Mais ça, c'est du sérieux, ça. L'Amphicar, c'est une voiture qui a été faite par un Allemand à Berlin. Mais il en a vendu 4000 exemplaires, quelque chose comme ça. Donc ça roule et ça flotte. Si vous en voulez une, ça se trouve d'occasion, ça coûte extrêmement cher, une voiture qui a une énorme cote, genre 60-80 000 euros pour avoir une voiture comme ça. Ça ressemble à une petite voiture américaine hein, quand elle sort de l'eau. Donc voilà, autre question, est-ce qu'on peut imaginer qu'une voiture ira sur terre, sur l'eau, sur l'air, partout en même temps? On n'en sait rien. Donc on a vu l'aérodynamique, bien sûr, le poids, la motorisation. Alors l'aérodynamique, c'est simple. On ne va pas faire beaucoup de chimie aujourd'hui, parce que dès que j'ai dit le mot chimie, la salle se vide, donc hein, je suis pour le confinement, parce que je fais salle pleine, hein, c'est quand même bien. Hein. Et on ne va pas faire beaucoup de physique, on va faire plutôt quand même de la physique que de la chimie, enfin un peu les deux. Alors, l'aérodynamique, c'est quoi? C'est le fait qu'une voiture avance dans un milieu qui n'est pas vide, puisqu'il y a l'air, et donc pour avancer, il faut pousser l'air de côté pour pouvoir... se déplacer. Donc ça va, plus la voiture sera grosse vue de face, surface frontale importante, et plus ça sera difficile, ce qu'on appelle le mètre-couple, Hein, prenez une photo de la voiture de face et vous avez la surface de la voiture projetée en fait sur un plan perpendiculaire à l'axe de la voiture, si vous voulez. Et ça, c'est important. Et puis aussi, le profilage, bien sûr. Une voiture bien profilée va permettre de pénétrer dans l'air avec moins d'efforts. Le profilage, c'est le fameux CX, le coefficient de pénétration, CX, hein, que tous les amateurs d'avions connaissent, puisque eux, ils connaissent le CX et le CZ, qui sont les deux composantes qui permettent à l'avion, enfin, qui jouent sur le vol de l'avion. Hein. Le poids, ben oui, le poids, on va en dire aussi pas mal de choses, parce que il faudrait qu'il soit le plus petit possible, et apparemment, c'est pas comme ça que ça se passe en ce moment. Les matériaux utilisés, la structure, il y a tout un tas de choses qui interviennent. Et puis évidemment, en plus, on verra, il y a tout un tas d'autres trucs qui font que le poids des voitures augmente assez sérieusement depuis au moins 20 ou 30 ans. Et puis la motorisation, bien sûr, quel type de moteur? Est-ce qu'on va encore longtemps utiliser les moteurs à pétrole ou pas? Est-ce qu'on va mettre un moteur électrique puisque c'est le substitut qui semble s'imposer? Ou d'autres, moteurs atomiques, hein, pourquoi pas? On verra. Mais dans tout ça, c'est ce qu'on a vu avant, il y a quand même des choses qui sont plus récentes. Par exemple, le fait qu'on ne veut plus de carburant fossile, du moins que l'évolution va vers l'éradication de ce genre de carburant. Le fait qu'on veut que les matériaux soient recyclables. Non, avant, il y avait des charges, on entassait les voitures, on les pilonnait. Maintenant, on déconstruit, comme vous le savez. Et puis il y a tout l'aspect, alors là, que personne n'a prévu, qui est l'informatique et l'électronique. Non, dans tous les projets les plus délirants qu'on a vus il y a 50 ans, il n'y avait pas ça. Donc ça, c'est arrivé, l'informatique en particulier est arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Personne ne s'y attendait, comme Internet. Alors, des petites comparaisons entre des voitures anciennes et des voitures actuelles pour voir la différence. J'ai pris la 4 chevaux parce que c'est ma voiture préférée. C'est la première voiture que j'ai eue, c'est une 4 chevaux. Celle-là, je vous la démonte, si vous voulez, je la connais par cœur. Hein. Et puis la Twingo, la dernière, la Twingo 3, puisqu'on dit que c'est une nouvelle 4 chevaux, elle a le moteur à l'arrière aussi, elle ne lui ressemble absolument pas, sauf qu'elle a le moteur à l'arrière et qu'elle est petite. Hein. Alors si on compare les deux, CX, c'est donc le profilage, hein, la qualité du profilage. Plus coefficient est petit, meilleur est le profilage de la voiture. C'est un coefficient qui intervient dans le calcul des forces de frottement. Non, plus il est petit, meilleur c'est. Vous voyez, on est passé de 0,42 pour la 4 chevaux à 0,34 pour la Twingo. Ce n'est pas absolument énorme comme différence, mais aujourd'hui, on descend difficilement en dessous de 0,30. Hein. La surface frontale, donc vous regardez la voiture de face, 1,68 m, 2,05 m. La tendance des voitures, c'est à s'élargir, également un peu en hauteur, surtout en largeur. Hein. Si vous cherchez dans des vieux bouquins quelle était la largeur d'une 404 qui passait pour une grosse bagnole, vous allez voir qu'elle était très étroite par rapport aux voitures actuelles. Donc voilà, les voitures se sont élargies, se sont un petit peu élevées en hauteur aussi, ce qui fait que la surface frontale de la Twingo elle est plus grande. Et quand vous faites le produit des deux, parce que c'est les deux qui comptent, hein, et ben vous trouvez à peu près pareil. C'est-à-dire que du point de vue de la pénétration dans l'air d'une 4 chevaux ou d'une Twingo 3, on est à peu près au même point. Le produit des deux, il fait 0,71, 0,70, voilà, pas la même chose. Le poids, par contre, là, c'est la surprise du chef, 600 kg ici, 940 ici. Donc, le poids augmente énormément, hein, c'est la moitié de plus, hein, ici. La puissance, alors, rien à voir non plus. On passe de 21 chevaux, j'ai mis en chevaux, après je mettrai des kilowatts, parce que c'est quand même l'unité qu'on doit utiliser, mais à l'époque de la 4 chevaux, le kilowatt ne servait que pour les électriciens. Hein. Donc 21 chevaux ici, 90 chevaux là. Donc là, on est multiplié par 4. Quoi, hein. Et la vitesse, vous voyez qu'elle n'a rien à voir non plus, 90 à l'heure avec une 4 chevaux, 165 avec une Twingo. On aurait pu penser l'inverse. Hein. Aujourd'hui, comme on roule à 80 sur les routes, on aurait pu se contenter d'une voiture qui fait du 90. Mais non, la plus petite voiture aujourd'hui, elle roule à 150. Hein. Et puis, moi, j'ai une voiture qui est tout à fait moyenne, hein, on appelle ça une citadine même, 4 mètres de long, tout ça. Eh bien, vous regardez les caractéristiques, ils vous disent que ça roule à 195 km à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de 195 km à l'heure, hein. C'est comme ça, voilà. Et la consommation, 4,4 litres ici, 10 tons pour la Twingo, et puis 6,5 litres. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de normes pour mesurer la consommation. Donc vous aviez trois essayeurs différents, il y en a un qui faisait 6 litres au 100, l'autre qui faisait 8 litres, et puis le troisième, je ne sais pas combien, c'est très très variable. Mais en tout cas, voilà, une diminution quand même évidente de la consommation, on le voit sur beaucoup d'autres exemples. Alors, si on prend les chiffres de l'ADEME, ça, l'ADEME c'est un institut d'État qui est chargé de, en particulier de faire tout un tas de statistiques sur les véhicules. Hein. La masse des véhicules, c'est la masse moyenne. Autrement dit, on prend toutes les voitures qui ont été immatriculées en France pendant un an. Et puis on prend leur masse, etc. On fait une moyenne, on additionne tout ça et on divise par le nombre de voitures. Regardez un peu depuis 1990, comme ça a grimpé. On était, le total est en vert ici, on était en dessous d'une tonne, on est monté à une tonne 3 ici, ça redescend un peu, voilà, ça a tendance à regrimper. Mais voilà, en tout cas, voilà, une augmentation continue du poids des voitures. La puissance, on a vu qu'elle avait beaucoup augmenté, alors vous voyez, là aussi, on voit, c'est énorme. Hein. Dans les années 90, on était autour de... C'est des kilowatts, là, cette fois-ci. On a les bonnes unités. 55 kilowatts. 50 kilowatts, ça fait 65 chevaux, quelque chose comme ça. Hein. Et puis, on a grimpé. On a une moyenne qui frise les 100 kilowatts, ici, en diesel, aujourd'hui. 100 kilowatts, ça fait 130... un peu plus de 130 chevaux, pour ceux qui aiment bien les chevaux. Hein. Donc, vous voyez, cette augmentation, ici... Par contre, là, il faudrait que je n'ai pas regardé, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette chute ici, je ne peux pas vous dire. Donc voilà un point à éclaircir. Et par contre, on va dire la consommation, parce que l'émission de CO2 et la consommation, c'est la même chose, hein, ça signifie la même chose, elle n'a cessé de diminuer depuis les années 90. Et vous voyez qu'on passe de 175 à peu près grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre de rouler hein, à 115 à peu près ici aujourd'hui. Donc on a décru énormément, ben, il faut dire que l'effort a été mis beaucoup là-dessus. Alors c'est un peu étonnant dans la mesure où le poids des voitures n'arrête pas d'augmenter, la puissance aussi, l'aérodynamique, pas énorme. Enfin, il y a eu des progrès, mais on va le voir tout de suite. Alors pourquoi ces évolutions ? D'abord, la taille des voitures. La personne que vous voyez là, elle est, c'est pas une personne de petite taille. Hein, fait 1m60. Donc, voilà, c'est pas une naine, mais elle a l'air d'une naine à côté de la voiture. C'est pour ça que j'ai pris en photo avec. Hein. Vous vous rendez compte, cette voiture-là ? Elle fait 1m60 de haut au capot, là, pratiquement. C'est incroyable. Alors, c'est pas chez nous, c'est aux États-Unis, mais chez nous, on a la même tendance à faire des SUV, des bagnoles comme ça, qui sont de plus en plus grosses. J'ai écrit en dessous, c'est pas une phrase, c'est une citation. Hein. On ne part pas en vacances en Twingo quand on a 50 ans. Ça, c'est les journalistes automobiles dans une émission de télé qui se permettent de dire ça. J'étais très vexé parce que 50 ans, j'avais une Twingo. Et je suis parti en vacances avec, on a passé des très belles vacances avec. Mais voilà, c'est la volaille qui fait l'opinion. Et on va persuader les gens qu'à 50 ans, il faut avoir une grosse bagnole, sinon... Sinon, je ne sais pas quoi. Sinon, on n'est rien, quoi. Hein. Voilà. Alors, grosse voiture, énormément de gadgets, on va dire. On va appeler ça des gadgets, c'est-à-dire des petits objets, des petites fonctionnalités, etc., qui finissent par peser lourd sur la balance. Vous voyez là en bas le nombre de petits signes kabbalistiques ici. Et puis, quand même, la sécurité qui a fait qu'on a augmenté beaucoup le poids des voitures. Prenez le poids d'une porte. Une porte de voiture comparée à celle des portes des voitures il y a 40 ans, vous allez voir, hein, ça pèse trois fois plus lourd. Hein. Il y a des barres dedans, etc., renforts, etc. Et puis les progrès en aérodynamique, en mécanique, presque plus en mécanique qu'en aérodynamique, mais voilà. Donc une augmentation de taille, beaucoup de choses qui font que le poids augmente, mais par contre, sur d'autres points, des bénéfices qui font que on s'y retrouve quand même. Hein. Alors, comment on a fait pour progresser dans le domaine de la consommation ? Ça vous concerne quand même, parce qu'on a encore tous, en gros, des voitures à essence. Hein ? Pour ceux qui pensent que c'est moi, ça n'est pas moi, là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on consomme? Très simplement, hein, il y aura une page de calcul tout à l'heure, on passera dessus rapidement, mais en ville, c'est le poids. Ça, c'est très clair. Et sur la route, c'est la résistance de l'air. Alors, pourquoi? Ben, le poids, parce que on n'arrête pas d'accélérer, de freiner, on s'arrête au feu rouge, on redémarre, etc. Quand vous démarrez, il faut lancer la bagnole. Hein? Et plus elle est lourde, plus c'est difficile, donc plus vous consommez. Puis quand vous freinez, la majeure partie du temps, ben tout ça part en fumée parce qu'on ne récupère rien, hein? On appuie sur les freins, c'est tout. La résistance de l'air, pas très importante parce qu'on ne roule pas vite. Par contre, quand on va monter sur l'autoroute, là, la résistance de l'air va devenir importante. C'est le carré de la vitesse, donc à partir de 60, 70, 80 km à l'heure, c'est la résistance de l'air qui commence à prendre le dessus et à être la plus importante. Et quand on est à 130, on peut oublier le poids. Toutes les voitures à 130 à l'heure consomment à peu près la même chose. La différence, alors évidemment, les voitures plus hautes sont plus grosses, donc on a aussi l'aérodynamique là, mais il n'y a pas énormément de différence, beaucoup moins qu'en ville, sur les consommations sur la route. Et puis évidemment, je rajoute d'autres choses, le rendement du moteur, donc les qualités du moteur, la transmission, le style de conduite, hein, ce qui fait que vous avez des voitures de sport qui soi-disant consomment rien. Pourquoi? Parce que les tests sont faits avec une vitesse très très modérée, etc. Dès que le type monte dans sa bagnole, tout à l'heure en arrivant, il y a un type qui passait avec une Corvette, là, un gros moteur V8, là, vous savez, qui fait un bruit de péniche, là. Il est clair que s'il fait le test, bah, il ne va pas consommer beaucoup parce qu'on va lui faire marcher tout doucement sa bagnole. S'il est au feu rouge qui veut épater les minettes, bon, il va démarrer et puis pof, il sera à 20 litres au 100. Hein. Et puis, les accélérations, les côtes, les feux rouges, la climatisation, les phares, il y a évidemment le nombre de causes est important. Climatisation, phare, etc., ça va devenir critique pour les voitures électriques. Alors voilà comment. L'aérodynamique commence à évoluer. Alors c'est un peu vieux ce graphique là, mais on voit quand même bien que tous les petits points roses, c'est des valeurs du coefficient de pénétration dans l'air, le CX. Hein. Je vous rappelle, plus il est bas, mieux c'est. Et vous voyez ce nuage de points avec une tendance qui a diminué, mais on voit bien qu'on a du mal à descendre beaucoup plus bas. Hein. En noir, ce sont des véhicules expérimentaux. On est arrivé à des valeurs très faibles, mais moyennant, on verra des solutions tout à fait délirantes. Donc là, on risque pas d'avoir beaucoup, beaucoup de progrès. Disons que le 0,2 ici, 0,25, on y arrive aujourd'hui, 0,2, peut-être c'est la limite qu'on peut espérer atteindre, mais c'est même pas certain. Alors, trois voitures chez Citroën cette fois-ci. On va comparer du point de vue de l'aérodynamique. Hein. La 15 chevaux CX, 0,65. Bon, j'étais à 0,30 tout à l'heure. Hein. Donc là, effectivement, on n'est pas terrible. Hein. La DS, 0,36. Et puis la C5, 0,29. Donc la DS n'est de loin pas la voiture la mieux carrossée au monde. Depuis, on a fait encore des progrès en aérodynamique. Et puis les surfaces, alors voilà, on retrouve la même chose. Hein. La traction, elle n'est pas si grosse que ça, en largeur et en hauteur. Et elle est plus petite, en tout cas, en surface frontale, en mètre couple, comme on dit, que les deux autres. Hein. Et puis le produit des deux, j'ai dit que c'était ça qui comptait, vous voyez que ça a chuté quand même drastiquement ici depuis, mais la traction elle date des années 30, hein, donc c'est quand même pas aujourd'hui, hein, 34, c'est marqué. Des choses qu'on ne remarque pas forcément, je reviens chez Renault avec la 4 chevaux, la 4L, j'ai pas le CX, la 4L, mais bon bref, la 4 chevaux, la Twingo, hein, et la Twingo 3. Vous voyez l'inclinaison du pare-brise ici? Vous vous étonnez pas si vous ne pouvez plus nettoyer le pare-brise à l'intérieur. Le bout du pare-brise, il est à 1 km. Hein, c'est comme ça. Voilà. Alors que dans le temps, c'était facile. On avait la vitre devant soi et on pouvait facilement la nettoyer. Voilà. Mais par contre, évidemment, ça donne des progrès en profilage, hein, qui sont importants. Pour ceux qui aiment bien les voitures et les voitures anciennes, une voiture comme la Jaguar E, ça pourrait plus se faire aujourd'hui. Elle a un pare-brise presque vertical. Aujourd'hui, elle aurait un pare-brise à 45 degrés, hein, sinon moins. Ouais. Alors, Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Ben oui, on peut encore faire plus bas, on peut encore faire plus étroit, etc. Hein, voilà. Vous voyez cette voiture-là? Ça, c'est le marathon Shell, hein, qui a lieu tous les ans. Je ne sais pas si c'est encore lieu maintenant, mais qui avait lieu tous les ans. Ce véhicule-là, avec un litre d'essence, il a fait 3688 km. Alors, je vous rassure, on ne l'aurait pas fait rouler pendant 3600 km. Il serait complètement mort de fatigue là-dedans. Mais on leur met un petit réservoir, c'est une ampoule comme ça, en verre, on pèse, on met ça dans la voiture, le type il fait quelques tours de circuit, je ne sais pas combien, enfin un certain nombre de kilomètres, on enlève le réservoir, on pèse à nouveau, parce que là, puis là on est au milligramme, hein, parce que ça ne consomme plus rien du tout. Quoi. Mais on verra la tête du bonhomme qu'il y a dedans aussi, tout à l'heure peut-être. Le poids, alors il y a une petite amélioration sur le poids, mais qui est récente, hein. Vous voyez, entre 207 et 208 chez Peugeot, là, on a quand même, on est passé d'une tonne 100 à 975 kg, donc c'est quand même une diminution tout à fait notoire. De même chez Volkswagen, les deux petites, là, la Fox et puis sa remplaçante, la Up, 1070, on passe à 930. Donc on a une diminution associée à tout le reste, ça donne aussi une diminution dans les consommations. Hein. Ah! Ah, on va faire de la physique, là. J'ai pris un exemple récent pour ceux qui suivent le Tour de France. Hein. Les vainqueurs du Tour de France sont là. Hein. Et qu'est-ce qui fait qu'on monte plus vite en vélo que son voisin? Il y a deux choses. On peut tourner à toute vitesse. Si vous voyez, si vous faites un peu... Moi, je fais du vélo alors de façon complètement amateur. Hein. Pas du tout, je descends en ville en vélo, je remonte chez moi, des choses comme ça. Hein. Et puis, des fois, je prends la véloroute, hein, comme ça, je fais un petit tour, puis je mesure à quelle vitesse je pédale. Mais quand j'arrive à 60 tours par minute, hein, quasiment, je ne peux pas aller plus vite. Quoi. Ils sont à 90-100, eux. Hein. Alors, pas dans les côtes comme ça, mais sur le plat, ils tournent beaucoup plus vite. Donc, évidemment, si vous tournez plus vite, vous avez plus de puissance. Et puis, ils pressent plus fort sur les pédales que moi. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas photo. Hein. La force d'appui sur la pédale, ce qu'on appelle exactement le couple, parce qu'en fait c'est une rotation, donc c'est deux forces qui font que la manivelle tourne, hein, que le vélo avance. Pardon. Le couple, c'est l'autre grandeur qui intervient dans la puissance. Hein. Et la puissance, c'est la somme des deux, enfin le produit des deux exactement. Hein. Couple multiplié par vitesse égale puissance. Voilà. Donc plus ça tourne vite et plus on appuie fort sur la pédale, c'est évident, et plus on développe de puissance. Pour ceux qui veulent des idées de puissance, les gars là, ils sont sur des 400 watts de puissance. Je ne vous ai pas dit combien j'étais moi, mais j'aime autant pas. Alors j'ai dit qu'on allait faire un peu de physique. Pour un moteur de voiture, c'est pareil. Plus il tourne vite, plus le régime est élevé, et a priori, plus il fournit de puissance. Une voiture, c'est entre 1000 et 6000 tours par minute, à peu près. Hein. C'est, si vous avez un contour, vous regardez comment il est, ce qu'il balaye comme régime. Hein. Et puis, évidemment, plus le couple est important, c'est-à-dire plus la force d'appui sur le piston, en fait, hein, au moment où l'essence brûle et repousse le piston vers le bas, plus le couple est important, plus la puissance est importante aussi. Donc, par exemple, si le moteur tourne à 3000 tours par minute, on est à, mettons, 90 à l'heure, eh bien, il faut à peu près 40 newton-mètres de couple, je vous passe les unités ici, pour arriver à cette puissance. Hein. Là, si je passe la cinquième, qu'est-ce qui se passe? Ben, le régime diminue, le moteur tourne moins vite. Si vous mettez une vitesse plus élevée, hein, cinquième au lieu de quatrième, le moteur ralentit. Et si le moteur ralentit, eh bien, le couple va augmenter, parce qu'il faut la même puissance pour continuer d'avancer. Hein. Donc si je mets la cinquième, je vais être un peu plus à gauche et un peu plus vers le haut. Puis si je mets la sixième, si j'ai une sixième vitesse, je vais encore être un peu moins vite en rotation et un petit peu plus en couple, de telle sorte qu'on ait toujours la puissance nécessaire pour faire avancer la voiture. Donc vous voyez que je pourrais tracer tout un tas de points en fonction du régime, quel couple il faut, etc. Hop, c'est fait, voilà. À 90 à l'heure, puissance de 15 à 20... kilowatts à peu près. Hein. Voilà la courbe qui dit, si ton moteur tourne à cette vitesse-là et qu'il te faut, on va dire, 20 kilowatts de puissance, eh bien, le couple devrait être à telle valeur. Voilà. Alors pourquoi il y a tout ce choix de vitesse? Pourquoi on a 3, 4e, 5e, 6e, 7e? Moi j'ai 7 vitesses sur ma bagnole. Heureusement, j'échange pour moi-même. Il y a une boîte automatique qui fait ça pour moi. Mais parce que ce n'est pas la même chose. Si vous êtes en 6e ici, là, et si vous êtes en 4e là, le rendement du moteur n'est pas le même. Donc vous allez gaspiller de l'essence plus si votre moteur tourne vite que s'il tourne lentement. Alors, cerise sur le gâteau, voilà, le rendement du moteur superposé à tout ça, c'est des coupes de niveau, 0,35 là, entre les deux derniers verres, c'est-à-dire ici, on est à 35% de rendement, 30% dans les oranges ici, hein, 15% là en bas. Autrement dit, quand vous êtes en quatrième, votre rendement il tourne autour des 20%, on va dire. Hein. En cinquième, peut-être à peine mieux. Et puis en sixième, on doit être à 30%, quelque chose comme ça. Hein. D'accord ? Donc l'intérêt, voilà, d'essayer d'arriver où ? Ben, il faudrait arriver là. Pour que vous gaspillez le moins possible d'essence, il faudrait arriver ici. Ben là, on ne peut pas parce que 150 Nm et puis 2500 tours, ça fait une puissance colossale. Donc ça n'est bon que quand on roule très vite et qu'on a besoin de toute la puissance. Autrement, on n'y est jamais. Donc quand on vous parle du rendement d'une voiture, c'est un problème très compliqué. Il dépend de beaucoup de choses, le rendement. Et on ne peut pas dire le rendement de mon moteur est de 30%. Des fois c'est 15%, des fois c'est 35%. Hein. Voilà. En moyenne, peut-être 25%, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, quatrième critère de consommation, on n'a pas parlé de ça, les côtes, les descentes, le freinage, l'accélération. Hein. Ben, quand vous montez une côte, vous gagnez de l'énergie, vous avez besoin de plus d'énergie, et cette énergie, vous la gagnez parce que plus vous êtes haut en altitude, et plus vous avez d'énergie, comme on dit, potentielle. La preuve, une fois que vous êtes au-dessus, vous pouvez vous laisser redescendre. Hein. Ceux qui ont lu Canyon Apache, ils savent ça, les Indiens sont au-dessus du canyon, ils ont des gros cailloux là, en équilibre, et quand les soldats passent en dessous, hop, un petit coup de levier, et le caillou tombe tout seul. Bon, pour le monter là-haut, il fallait fournir de l'énergie, c'est l'énergie potentielle, et quand il tombe sur les types en bas, je ne vous dis pas ce que c'est comme énergie. Hein. Les accélérations, c'est pareil, si on veut faire aller la voiture plus vite, eh bien, on va lui faire gagner donc de l'énergie. C'est de l'énergie cinétique. Plus les voitures vont vite, plus son énergie cinétique est grande. Tous ceux qui ont passé le permis il y a moins de 30 ans le savent. 1,5 de MV2, on apprend même quand on passe le permis aujourd'hui. Hein. Donc il faut fournir cette énergie et on dépense de l'essence supplémentaire pour arriver à la bonne vitesse. Descente et freinage, c'est l'inverse. Sauf que, alors en descendant, on devrait récupérer l'énergie, en freinant aussi. On ne la récupère pas, c'est-à-dire qu'on freine et toute la chaleur qui part ici, vous voyez là, dans les tambours, eh bien, c'est dissiper l'énergie que vous aviez accumulée pour l'environnement, pour réchauffer l'environnement. Voilà. Et mon dessin n'est pas juste, parce que la deux chevaux n'a pas les freins dans la roue, mais à l'intérieur, du côté du moteur. Bref. Voilà, donc l'intérêt, ça serait d'arriver à récupérer cette énergie. Hein. C'est quand même malheureux en vélo, moi quand je descends en ville à Besançon, d'être obligé de freiner dans la descente, quoi. Hein. J'aurais bien aimé garder cette énergie, la conserver pour faire autre chose avec, etc. Si je freine pas, je me casse la figure en bas. Je suis bien obligé de freiner. Alors on peut le faire aujourd'hui. On fabrique du courant électrique, on met une génératrice, c'est-à-dire une génératrice de courant, qui va freiner la voiture, parce que pour faire tourner la génératrice et fabriquer le courant, il faut faire tourner l'arbre de la génératrice, et ça consomme de l'énergie. Donc on lui fait fournir du courant, ça freine la voiture mécaniquement, et puis bah, on stocke ce courant dans une batterie, dans un tas de choses. Hein. On peut mettre des supercondensateurs, enfin bref. Ou alors, on peut aussi emmagasiner de l'énergie cinétique, un volant, et puis dans la descente, eh ben, on le fait tourner de plus en plus vite en utilisant l'énergie en descendant. Et puis, on a donc un volant qui va tourner à toute vitesse et qui permettra éventuellement de relancer la voiture ensuite. Hein. Ça se fait sur des voitures de course, ça. Hein. Deux records de consommation, la Golf et la 308, qui ont été faits dans les années 2013, je crois. Alors, je vais vous dire ça. Hop. record, voilà, la Golf TDI, novembre 2013, et puis l'autre à peu près pareil, mars 2014. Mais il faut voir dans quelles conditions ça a été fait. Hein. La Golf, la première là-haut, Golf TDI, donc diesel, 77 km/h de moyenne, c'est pas si mal, hein. 1600 km de Nantes à Copenhague, en passant par Paris, Anvers, Brême, Hambourg, de nuit évidemment, en calculant les itinéraires pour pas trop avoir de feu rouge, enfin bref, avec des gens qui ont le pied très léger sur la pédale, bon, en arrangeant, en gros, on déblaye tout devant pour que la voiture puisse rouler sans être obligée d'accélérer, de freiner, etc. Enfin, c'est, sur la 308, c'est un peu plus discutable parce que elle a fait son record à 56 km/h de moyenne. Bon, quand même pas beaucoup, mais c'est 56 km/h quasiment de vitesse constante. Sur un circuit en Espagne, à Almeria, ils ont tourné pendant je ne sais pas combien de temps. C'est pas marqué. Bon. Donc là, ce n'est pas du tout les conditions d'utilisation normales. Hein. Et vous voyez, on est encore à 3 litres au 100, on n'est pas un, là. Hein. Sur des records qui ont été faits, je peux vous dire que chez Peugeot, ils ont bossé pour réussir à battre Volkswagen, puisque c'est l'ennemi héréditaire, comme chacun sait, de Peugeot. Hein. Alors, les véhicules expérimentaux, ils font mieux. Hein. La soi-disant voiture à 1 litre au 100, la voici. Vous voyez la petite dame, là hein. Alors elle ne fait pas plus d'1m60. C'était la présentatrice du modèle au salon de Genève. Et vous voyez que la voiture ici fait 1m15 de haut. Hein. Donc elle est vraiment aplatie. On peut monter dedans. Moi je suis monté dedans, donc on peut monter dedans. Elle coûte une fortune. Elle coûte exactement 110 000 euros. Si vous voulez en acheter une, il y en a une à vendre en Angleterre, puis une en Allemagne en ce moment, je crois. Parce que tous les matériaux sont extrêmement chers, etc. Enfin, tout a été optimisé, bien sûr, pour qu'elle consomme le moins possible. Et on verra qu'elle consomme même pas 1 litre au 100, mais plus. Hein. Avec un CX record de 0 à 186, évidemment dû à sa petite taille. Elle est bien profilée et elle a une toute petite taille. Et puis la microjoule que voici ici, là, l'espèce de cigare, vous voyez comment on conduit là-dedans hein, pour arriver à faire 3000 km. Alors en plus, donc le type est complètement couché dedans, hein, il a un petit moteur de mobilette, enfin un truc comme ça, qui a été optimisé aussi. Et puis, donc sur le circuit par exemple du Castellet, ça monte, ça descend, hein, dans les descentes on coupe le moteur, on va à la roulette jusqu'en bas, on redémarre le moteur pour monter la côte, etc. Enfin c'est tout un cirque, bon ça n'a qu'une valeur démonstrative comme ça, mais bon. Et puis le lycée de la Joliette, là... de chez Microjoule, là, c'est des spécialistes, hein, ils ont un lycée qui a une section automobile et tout, et c'est leur vitrine, hein, voilà. Ah ben j'ai dit qu'on allait pouvoir faire des calculs quand même. Je vous les passe les calculs, mais voilà, si on veut faire des calculs, il faut la surface frontale, le coefficient de pénétration dans l'air, le coefficient de frottement solide, hein, quand on pousse une voiture, même à l'arrêt, il y a des frottements dans les roulements, etc. Il faut la masse de la voiture pour l'énergie cinétique, il faut le rendement du moteur, j'ai mis 35%, je suis gentil, hein. Et puis le pouvoir calorifique du carburant, puisque pour savoir... avec telle puissance qu'il faut fournir, combien ça fait de carburant, donc connaître la quantité d'énergie que peut fournir un litre de carburant. Alors, moyennant ça, j'ai fait tous ces calculs-là, hein, à quatre températures, oh là, à quatre vitesses différentes, 50, 80, 130 et 158, qui est la vitesse maximale de cette Volkswagen, là. Et puis voilà, on les calcule ici, et on trouve la puissance nécessaire... 3, 10, 17 kW. Le moteur, avec son rendement, évidemment, il faudra plus de puissance à l'entrée. Et la consommation. Et vous voyez que 1 litre au 100, on y arrive à 70 à l'heure. Mais si on est à plus de 70, on est au-dessus d'un litre au 100. Et le calcul est théorique, c'est-à-dire qu'on risque fort d'être au-dessus. Hein. Au minimum, on doit être là-dessus. Quoi. 2 litres au 100 à 130. Et puis, quand elle est à fond la caisse, 2 litres, 3 litres au 100. Voilà. Donc c'est pas la voiture, si c'est la voiture à 1 litre 100 si vous roulez à 60 à l'heure, hein, avec. Voilà. Donc vous pouvez acheter la voiture 110 000 euros et ne dépassez pas le 60, sinon votre pari sera perdu. Hein. Vous voyez, elle est bien profilée. Hein. Deux places, un petit moteur diesel, un deuxième petit moteur électrique pour voilà, une hybride donc. Hein. Alors, ne faut pas croire qu'on a découvert la Lune. L'Automobile Magazine, hein, c'est un des magazines auto les plus connus. Il est très ancien, puisqu'il a, été, il a démarré juste après la guerre. Et dans le numéro 1, vous avez, voiture actuelle, voiture future, un article qui met en exergue la phrase suivante. Les progrès s'accomplissent sous la double impulsion de la réduction de la résistance à l'avancement, c'est l'aérodynamique, et de l'allègement des masses. Donc, il faut faire des voitures légères. Avec un petit tableau qui ressemble au tableau que j'ai fait à la page précédente. Bon, ils n'ont pas pris les mêmes valeurs, donc ils ne trouvent pas tout à fait les mêmes chiffres. C'est des chevaux ici, ce n'est pas des kilowatts, mais enfin, voilà, on savait faire tous ces calculs-là déjà, évidemment, à l'époque. La résistance de l'air, c'est un truc qu'on connaît quand même depuis le XVIIIe siècle. Hein. Y compris d'ailleurs, voilà, les revues automobiles ne s'y trompaient pas, les constructeurs également, Matisse, qui était un constructeur français, hein, qui met en exergue le poids, voilà l'ennemi. Hein. 440 kg la petite voiture, la Matisse 333, là, hein, avec un petit moteur de 15 chevaux qui roule à 100 à l'heure, elle a trois roues, elle a un CX de 0,28 qui est tout à fait remarquable, vous voyez qu'elle est bien profilée. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est très connu. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait depuis? Bon, on n'a rien fait depuis parce que l'essence ne coûtait rien, c'est tout. Il n'y a pas d'autre, raison. Hein. Alors, les mauvaises idées pour changer de carburant. Il faut absolument que je parle quand même du moteur à eau, parce que c'est une sacrée solution, ça. Hein. Rouler avec de l'eau, vous vous rendez compte, hein. L'automobile, ça c'est 74, hein, c'est pas 46, mais quand même, hein. Stupéfiant, j'ai vu tourner le premier moteur à eau. C'est Thévenet qui a fait l'article. Thévenet qui était le grand journaliste automobile de l'époque, hein, qui fait tous les essais, etc. Un type très sérieux par ailleurs, mais qui aurait dû se renseigner auprès d'un physicien ou d'un chimiste ou n'importe quel type qui avait quelques idées sur ce que c'est que l'énergie, et il aurait vu que ce n'était pas possible. Hein. C'est extrait, la photo est extraite de l'article en question. Jean Chambrin, là, et Jacques Jojon, ici, là, ingénieur et tout, hein, qui sont devant leur banc moteur. Nous travaillons avec nos propres moyens. En haut à droite, le réservoir d'eau. Donc ça, c'est ce qui est écrit en bas, ici, là. D'accord ? Voilà. Donc un réservoir d'eau, mais à côté, il y a un réservoir d'alcool aussi. Alors, il y a déjà un petit doute, là. Hein. Bon, alors, après tout, si on mélange moitié-moitié, ils faisaient des mélanges 60-40, alcool-eau, on peut se dire que c'est 40% d'économisé. Sauf que l'année suivante, la voiture a été testée, pas la même, ça c'est une ID19, c'est une R16 qui a été testée par l'UTAC, donc l'organisme de certification automobile, hein, et leur Renault 16, elle plafonnait à 90 à l'heure ou 95 en consommant 35 litres au sang de ce mélange au alcool. Hein. Bon, plus de signes de vie, ils ont disparu. Chambrin est parti au Brésil, sans sa femme d'ailleurs, parce qu'au Brésil, ils font beaucoup d'alcool, ils ont des voitures qui marchent à l'alcool, il espérait faire fortune là-bas, bon, apparemment ça n'a pas marché. Hein. Bon, voilà, et il serait mort en 97, extraordinaire, parce qu'on ne sait pas, la suite, etc. Tout est prêt pour la théorie du complot, là. Voilà. Alors, j'ai fait de la physique, je fais de la chimie. Hein. Est-ce que l'eau peut être un carburant? Question qui n'est pas stupide. Hein. On peut se poser la question. Je vais essayer un truc. Ah ah. Ouf. J'essaie de voir si on voit ma tête, mais on ne voit pas plus ma tête. Bon, tant pis. Quand on fait brûler un carburant, on le fait brûler avec de l'air, ou avec de l'oxygène, enfin bon, voilà. Donc il faut un carburant et quelque chose pour le faire brûler, pour réagir avec lui, qu'on appelle le comburant. Hein. Et ça donne, ça donne des produits de réaction et ça dégage de l'énergie, puisque c'est pour ça qu'on fait brûler le corps. D'accord ? Voilà, un peu de chimie, je ne vais pas détailler tout ça, je considère ici que ça c'est de l'octane, donc c'est de l'essence, hein, brûle avec de l'oxygène, va donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Et de l'énergie, 12 kWh par kilogramme d'essence. Je prends du méthane, donc gaz naturel. Hein, le méthane brûle dans l'oxygène, donne du dioxyde de carbone et de l'eau, et libère de l'énergie. je prends de l'hydrogène, tout ça, ce sont des carburants, pardon, hein, l'essence, le méthane, l'hydrogène, brûle avec l'oxygène et donne de l'eau et de l'énergie. Bon. Autrement dit, si vous voulez utiliser de l'eau comme carburant, il faut retourner la réaction dans l'autre sens. Hein. L'eau va donner de l'hydrogène et de l'oxygène, comme moi, parce que ça pourrait donner d'autres. Vous pouvez imaginer que l'eau réagit avec l'oxygène, ça ne marche pas du tout. Si vous pouvez faire de l'eau oxygénée, ça va vous coûter bonbon en énergie, mais on peut y arriver. Mais... Autrement dit, si vous transformez l'eau en hydrogène et oxygène, bien vous allez devoir non plus, vous ne recevrez pas cette quantité d'énergie, mais vous serez obligé de la fournir pour que ça marche. Hein ? Ça va demander donc 3,7 kWh d'énergie par kilo d'eau décomposée. Hein ? Si vous mélangez de l'hydrogène et de l'oxygène, il ne se passe rien. Si vous voulez que ça... Pardon, oui, ici. Mais si vous mettez une petite étincelle, boum, ça part, hein, comme l'essence, quoi. Hein. Et l'eau, si vous attendez qu'elle se décompose en hydrogène et oxygène, avec des catalyseurs, tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Hein. Il y a moyen quand même. On peut chauffer au moins plus de 2000 degrés, ça finit par se casser en morceaux. Ok, ben, il faut les fournir, les 2000 degrés, encore une fois, énergie fournie. Ou alors on électrolyse, et l'électrolyse aussi, il faut une batterie qui fournit du courant. Donc ici, à nouveau, on fournit l'énergie nécessaire pour pouvoir dissocier l'eau en hydrogène et oxygène. Donc c'est pas possible, c'est aussi bête que ça. Un autre clown, c'est M. Pantone. Alors M. Pantone, lui, il utilise aussi de l'eau. Il la dissocie en hydrogène et oxygène sur un truc, sur un petit morceau de ferraille, enfin, hein, je ne sais pas comment. Et puis il garde l'hydrogène. Alors je ne sais pas ce qu'il fait de l'oxygène d'ailleurs, mais enfin bon. Et il prétend que ça marche. Alors on a fabriqué des tondeuses à gaz, etc. Et voilà. Il y a toujours en plus autre chose. Il y a un petit peu d'essence, un peu d'alcool, etc. Bon, qui permettent au moteur de tourner quand même. Hein. Voilà. Et je vais vous lire intégralement, là c'est la première partie de la phrase que je tiens absolument à vous lire parce que c'est extraordinaire. Je vous lis tout, hein, et puis après je fais un interro pour savoir si j'ai tout compris. C'est quand le champ électromagnétique est aussi bien radial que longitudinal et équilibré pour créer le centre de la réaction de plasma qu'il est à son maximum d'efficacité. Jusque-là ça va ? Oui. Les composants du PMC-GEET permettent le transfert de la quasi-totalité de la chaleur produite dans le plasma qui stabilise ensuite le champ magnétique autant qu'il augmente le flux d'électrons pour n'importe quel besoin à la demande. Le plasma est créé à volonté puisqu'on utilise un champ magnétique stable, auto-entretenu et que l'on n'a pas le problème des amas de plasma aléatoires et que chaque molécule est maintenue à un potentiel constant tributaire de la demande et que celle-ci contrôle le champ. Oh, je ne vous lis pas la fin de la phrase, j'en peux plus. Hein, voilà. Bref, M. Pantone, il a fait quelques années de prison, il est passé par un asile psychiatrique aussi, il est décédé, lui, en 2015, ça on sait. Mais il avait mis son brevet en accès libre, en 1999, hein, sur Internet, déjà. Hein. Et il y a des gens très sérieux qui ont essayé de faire son truc, là. Je ne vais pas vous dire où, parce que moi j'ai des collègues qui ont fait ça, hein, les mécaniciens. Je ne veux même pas vous dire où ça se passe, parce que c'est vraiment invraisemblable de voir ça. Mais il y a des gens qui y croyaient. Voilà. Bref, voilà, ça n'a jamais marché, bien sûr. Et en plus, il donne les résultats. Regardez, avec le système Pantone, là, CO2, il n'y en a plus. Les NOx, il y en a moins. Les NOx, c'est les oxydes d'azote, c'est un autre polluant qu'on produit dans les moteurs. Les hydrocarbures, presque rien. Consommation, 9 litres 8 au 100. Où est passé le gaz carbonique? On ne sait pas. Parce que je vous rappelle quand même qu'il utilise de l'hydrogène, il fait je ne sais pas quoi, et puis il mélange ça avec de l'alcool ou de l'essence. Il y a quand même bien du gaz carbonique qui doit... Le gazole en question, là, il est passé où, le gaz carbonique? On ne sait pas. Bref. Voilà. Hop. Deuxième mauvaise idée. Puis après, on passera aux bonnes idées. Hein. Deuxième mauvaise idée, l'air comprimé. On a eu des gens qui ont dit on peut faire marcher des machines à l'air comprimé. Alors, c'est pas stupide, dans le fond. On a vu le Mekarski, là, le tramway. La seule question, c'est comment on fabrique l'air comprimé. Hein, mais une fois qu'on a de l'air comprimé, on peut faire marcher. Voilà. Et je lis encore un extrait d'un article. Si le moteur à eau n'a pas toujours connu le succès mérité, vous voyez, hein, Le français Guy Nègre, le français, on n'a pas de pétrole, l'air de rien, va pouvoir commercialiser sa voiture à air comprimé au salon automobile de Genève. Ça date d'il y a 10 ans. Pendant 10 ans, il a fait croire aux gens que sa voiture marchait. Elle faisait 100 mètres sur le parking. Les gens donnaient 500 balles pour une précommande. Ils n'ont jamais vu l'argent de leur bagnole. Ah. Hein. Voilà, donc ça sent bien la théorie du complot, vous voyez bien. Hein. Le succès mérité du moteur à eau, etc. Il va pouvoir commercialiser sa voiture. Bon. Il a eu des procès avec une boîte suisse qui s'appelle 4Car, avec laquelle il avait fait un deal aussi, parce qu'il n'a jamais été capable de fournir, bien sûr, le véhicule en question, qui s'appelle MDI. Il était mignon, hein, c'est dommage. Mais bon, voilà. Alors l'air comprimé, ça marche, mais ça ne marche pas longtemps. Il faudrait vraiment des grosses quantités d'air très comprimé pour que ça puisse fonctionner. Peugeot avait essayé un hybride dans lequel on comprimait de l'air et puis on s'en servait ensuite, comme on peut servir d'un moteur électrique dans les hybrides pour en ville, par exemple. Ça n'a jamais eu de suite. Donc apparemment, ce n'est pas si facile que ça. Ah, il y a encore une mauvaise idée, la voiture atomique. Eh oui, Atomic Car Coming, ah, c'est marqué. Hein. Voilà. Comment éviter un PV de stationnement, enfin, en roulant, eh bien, on vole, voilà, avec une voiture atomique. Hein. Alors évidemment, ça ne marche pas. Non pas qu'un moteur atomique, ça n'existe pas, mais ça ne fournit pas assez de puissance, quoi. Une centrale nucléaire, c'est énorme. Hein. Ça fournit beaucoup de puissance parce que c'est énorme. Si vous prenez un tout petit système, en général, les tout petits systèmes qui utilisent de l'énergie nucléaire, ils utilisent la chaleur produite par la désintégration nucléaire. Hein. Ça marche, mais ce n'est pas assez pour faire marcher une bagnole. Alors, exemple, voyageurs, les sondes voyageurs sont partis en 77 pour voyager vers les planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Elles ont un générateur atomique, mais il fournit 470 watts. Bon, ça suffit pour envoyer les informations, faire marcher un peu l'appareillage, etc. Elles fonctionnent toujours au final, hein, elles sont aux confins du système solaire, là-bas, en train de sortir. Voilà. Puissance très très faible. Curiosity, le robot qui est sur Mars, il est parti en 2012, je crois. Et bon, il a été posé sur la surface de la planète Mars et depuis il se déplace en utilisant aussi l'énergie atomique, enfin nucléaire, c'est vrai, exact. Il a fait 21 km quand même. Hein. Mais ce qui manque, c'est la puissance, clairement. Hein. Ce n'est pas le fait que ce soit impossible. Et puis l'autre truc, évidemment, c'est que c'est dangereux, quoi. Hein. On a des risques qu'on n'a pas envie de prendre. C'est pour ça aussi que les fusées ne sont pas atomiques non plus, parce que si la fusée se casse la figure, on n'est pas très bien, quoi. Alors, les bonnes idées. Allez, je me dépêche un peu. Voilà une bonne idée. Non ? C'est même pas assez. C'est des petits chevaux, là, je ne sais pas quoi. Hein, voilà. Alors, la biomasse. J'ai mis bonne idée, puis j'ai mis attention à droite, parce que, évidemment, fabriquer de l'éthanol avec des plantes, hein. C'est des surfaces cultivées en moins pour les gens qui ont besoin de ça pour se nourrir. Hein. Et d'où cette petite image-là. Il va falloir réduire votre consommation, les pauvres là, qui n'ont même plus de quoi planter ce qu'il leur faut. Alors, première génération, on bannit complètement betteraves, céréales, canne à sucre, colza, tournesol, soja, huile et palme. Ce sont tous des denrées alimentaires, ça. Donc ça n'a aucun sens de faire du pétrole avec, sinon, effectivement, il faut qu'on revienne à ça. Voilà, le résultat, il est là. Hein. Alors, deuxième génération, des déchets, du bois, de la paille, des résidus agricoles forestiers, ça, c'est déjà plus intéressant. Si c'est des déchets dont on ne fait rien, pourquoi pas les transformer en carburant. On ne fait pas de l'éthanol ni du diesel, on fait des lignocellulose, mais bon, de toute façon, ça sera des carburants. Le plus intéressant, c'est quand même la troisième génération, qui est encore au stade de la recherche, c'est les algues. Étant donné qu'il y en a des quantités absolument énormes, et puis qu'il y en a même qui sont invasives, enfin bon, donc on peut essayer de trouver un moyen de récupérer ces algues et de les transformer, et là, ça sera des lipides, donc des graisses, hein, qui sont faites à partir des algues. C'est encore au stade de recherche. Moi, j'étais à la COP21 à Paris, là, il y a quelques années. J'ai vu des chercheurs qui présentaient leurs résultats. Ils en sont vraiment au stade de la recherche. On n'en est pas encore à utiliser les algues et à les faire fermenter, je ne sais quoi, pour obtenir des carburants. Mais c'est une solution qui est intéressante. Un projet à Strasbourg, récupération des ordures ménagères, et on fait du biométhane. Donc hein, on fait fermenter, on fait du méthane. Je ne sais pas où ça en est, ce projet. Ça, c'était il y a quelques années. Depuis, ça a dû être mis sur pied, je ne sais pas. Voilà. Donc, station d'épuration, on fait du biogaz hein, en faisant fermenter, et puis le biométhane est envoyé dans le réseau de gaz naturel de la ville qui peut servir pour l'industrie, pour le chauffage domestique ou pour comme carburant. D'ailleurs, comme carburant, vous avez toute la gamme Fiat qui a une version fonctionnant au gaz, au méthane, au gaz de ville. C'est intéressant dans la mesure où ce gaz n'est pas obtenu à partir du pétrole, c'est sûr. Mais comme il y a d'autres possibilités, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Ça marche exactement comme une voiture normale. J'ai roulé dans une Panda là, qui marchait au gaz. Vous ne voyez pas la différence avec un véhicule normal. Hein. L'hydrogène. Tout à l'heure, on a dit l'hydrogène et l'oxygène, ça donne de l'eau. Ah, ça, c'est l'intérêt principal, c'est ça. Donc, ça, c'est pas un polluant, l'eau, on le saurait. En plus, si l'hydrogène est fabriqué à partir de l'eau, par électrolyse, je ne sais pas quoi, bon, ça peut être un bon moyen. Ici, par exemple, vous avez les boosters de la fusée, la navette, là, la fusée porteuse de la navette. La fumée blanche que vous voyez là, c'est de l'eau. Parce que les deux propulseurs ici marchent à l'oxygène et l'hydrogène. Donc, ils fabriquent de l'eau. Et cet énorme panache de fumée blanche, ce n'est plus ni moins que de la vapeur d'eau. Voilà. On fabrique de l'énergie en faisant brûler l'hydrogène. On peut même. Il y a des véhicules qui ont fonctionné avec l'hydrogène directement envoyé dans le moteur, avec un moteur classique, un moteur à explosion. On remplace l'essence par de l'hydrogène. Alors il y a des petits réglages à modifier, mais ça marche. Alors, c'est extrêmement énergétique, l'hydrogène. Vous voyez, 33 kWh par kilo d'hydrogène au lieu de 13 pour l'essence. Mais par contre, c'est très léger, l'hydrogène. C'est le plus léger des éléments. Donc, le gaz, c'est le plus léger des gaz. Et quand vous regardez ce que ça donne par litre, ben vous voyez que pour l'essence, à peu, autour de 10 kWh par litre, donc, alors que l'hydrogène, c'est 3 kWh, mais pas par litre. Par mètre cube, hein, 1000 fois plus. Et oui. Donc l'idée, ben, il faut comprimer l'hydrogène pour arriver à en avoir beaucoup dans un petit volume. Hein. Aujourd'hui, dans les voitures qui fonctionnent à l'hydrogène, on va le voir, en gros, c'est 100 km avec 1 kg d'hydrogène. Hein. Alors voilà un énorme réservoir ici. L'hydrogène sous pression, on peut tracer des courbes comme ça qui vous disent à telle pression, vous stockez tant d'hydrogène. Par exemple, ici, la norme aujourd'hui, c'est 700 bars. Il y a eu 350, mais aujourd'hui, c'est à peu près abandonné. À 700 bars de pression, vous avez seulement 40 grammes d'hydrogène par litre. Non, c'est encore pas énorme. Hein. Mais bon, 100 km avec un kilo d'hydrogène, ça veut dire qu'il faut faire un réservoir de 5 kilos à peu près. Ça fait 500 km d'autonomie. Hein. 5 kilos, on y arrive. Hein. C'est un peu volumineux, mais enfin, ça se fait. Voilà, par exemple, une entreprise qui est à Dole, MyTech, qui a été montée par un prof de l'université, hein, qui bosse à l'IUT d'ailleurs, encore là, qui travaille sur le stockage de l'hydrogène dans des réservoirs sous pression. Hein. Donc celui-là, c'est un réservoir qui n'est pas fait pour mettre dans une voiture, mais pour stocker de l'hydrogène. Voilà, à 500 bars de pression, on peut stocker jusqu'à une dizaine de kilos d'hydrogène dans le réservoir de 300 litres, qui fait quand même 260 kilos, parce que là, il faut que ça résiste à la pression. Alors, on verra l'hydrogène après, oui. L'électricité, bonne idée ou pas bonne idée? Je ne sais pas d'où ça sort, ça. C'est rigolo, hein. On trouve des trucs comme ça des fois, puis après, bref. Voilà. Alors évidemment, quand je disais l'hydrogène, il faut savoir d'où il vient. Si on le fabrique à partir de l'eau par électrolyse, c'est très vertueux. Hein. Si on le fabrique à partir d'autres choses, ça peut être moins bien. L'électricité, c'est la même chose. Pour charger une batterie, il faut brancher ça sur une prise. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la prise? Eh bien, il y a une centrale à charbon, il y a une centrale nucléaire, il y a une éolienne, il peut y avoir un tas de choses. Et donc, le problème n'est pas complètement résolu. Il ne suffit pas d'avoir une batterie, il faut encore la charger. Alors, pareil, aujourd'hui, pour avoir des idées simples, je dirais que 100 km, ça se fait avec un stockage dans une batterie de 15 à 20 kWh. Les kWh, c'est une unité d'énergie. Les voitures, si vous regardez les voitures électriques qui existent, dans les chiffres qu'on vous donne, on est autour de 15 kWh pour 100 km. Donc une batterie de voiture électrique qui fait, je sais pas, une cinquantaine de kWh, c'est déjà des batteries assez conséquentes, ben, vous pouvez espérer faire 300 km avec, quoi. Je ne vous explique pas le fonctionnement d'une batterie lithium-ion, c'est très compliqué, pas simple du tout à expliquer. Derrière une batterie, derrière une électricité, on met un moteur électrique, il a presque tous les avantages. Léger, puissant, simple, fonctionne à tous les régimes, excellent rendement, pourquoi voulez-vous qu'on s'en prive, hein ? Léger, simple et puissant, je compare deux moteurs, le moteur explosion classique que vous avez dans votre voiture, et puis le moteur électrique, ici. Puissance spécifique, deux fois plus grande, autrement dit, un moteur électrique à poids égal peut fournir une puissance, grosso modo, deux fois plus grande. Autrement dit, pour la même puissance, il pèse deux fois moins lourd. Le rendement, rendement d'un moteur thermique, ça va jusqu'à 35%, et on l'atteint très rarement. Un moteur électrique, c'est pas moins de 60%, et ça peut aller jusqu'à au-dessus de 90%. Un moteur de TGV, par exemple, ça a un rendement de 97-98%. Autrement dit, pratiquement toute l'énergie électrique qui arrive au moteur sert à la propulsion. Alors évidemment, un moteur de TGV, ça coûte cher, hein, c'est sûr. Mais dans un moteur de voiture, on a des rendements 70, 80, 90%. Donc c'est intéressant quand même. Le nombre de pièces. Dans un moteur comme ça, 200-250 pièces, ils sont gentils. Un moteur de Formule 1, je crois qu'il y a 4000 pièces en tout dedans. C'est invraisemblable. Il y a beaucoup de choses là-dedans, les culbuteurs, les soupapes, les machins. Et ben. Alors qu'un moteur électrique, il peut y avoir 20, 25 pièces, 30 pièces, bien inférieur à 50, là, de toute façon. Donc une simplicité bien plus grande. Voilà. Par contre, beaucoup d'électronique, beaucoup plus que dans un moteur classique. Hein. Alors, coupleux, j'ai mis. Coupleux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de couples, hein, et surtout, il y a du couple dès le départ. Quand vous démarrez avec votre voiture, vous, quand vous avez une voiture classique, vous ne pouvez pas démarrer facilement. Il faut faire patiner l'embrayage, etc. Il y a tout un système. Le moteur, en dessous de 1000 tours par minute, il va caler. Parce qu'il n'a pas de couple, il lui manque du couple. Alors que le moteur électrique, vous voyez, le couple est ici, là, dès zéro, là, dès qu'il commence à tourner, il est à son couple maximum. C'est pour ça que les voitures électriques ont des démarrages foudroyants. Hein. C'est même pas la peine de faire des tests d'accélération avec, elles enfoncent toutes les bagnoles. Évidemment, ça démarre, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, moi j'ai fait ça, j'ai essayé une Tesla, donc c'est une belle voiture hein, électrique, là. On a fait un test d'accélération, on était collé au siège, en apnée. Hein. Là, il y avait, je ne sais pas combien de chevaux derrière qui poussaient. Mais bref, voilà. Donc, beaucoup de couples dès le démarrage. Et ça veut dire que votre moteur, il marche très bien à 0, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 6000 tours. Hein, il y a encore un peu de couple à 6000 tours. Autrement dit, il n'y a même plus besoin de boîte de vitesse. Ça finit, le problème a disparu. Donc, il n'y a pas de boîte de vitesse dans les véhicules électriques. Quand même pas mal. Hein. On peut aussi imaginer que, comme ils sont légers, les moteurs, on peut en mettre 4, on en met un dans chaque roue, c'est vachement bien, parce que ça sert après pour l'ABS, ça sert pour le contrôle de trajectoire, tout ça, ce qu'on fait aujourd'hui en jouant sur les freins. Hein. Quand la voiture commence à déraper, on va plus ou moins serrer le frein sur une roue, desserrer sur l'autre, etc. Si vous avez un moteur dans chaque roue, il peut servir à faire tout ça. Hein. Et récupérer l'énergie au freinage, pourquoi pas. Voilà. Regardez les deux voitures ici qui se ressemblent beaucoup, Clio 5 à essence et puis la Zoé électrique, deux voitures qui ont des gabarits à peu près semblables, des puissances tout à fait analogues, 65-60 kW, eh bien, le couple de celle qui est à essence est 140 Nm maximum, et puis la Zoé électrique, c'est 220 Nm, et non pas au maximum, mais tout le temps. Donc, voiture, ça veut dire qu'elle va être très souple aussi. On peut mettre un moteur dans chaque roue, on a déjà inventé ça, regardez, Michelin a fait une roue active, enfin, il y a la suspension, il y a tout dedans, voilà un autre modèle, avec ici l'induit, etc., l'inducteur là au milieu, voilà. Donc ça, ça peut se faire, c'est peut-être une solution à creuser. Alors, l'énergie, qui fournit l'énergie au moteur électrique? On a dit, c'est bien beau, il faut que l'énergie vienne de quelque part. Pour la batterie, ben, il faut savoir comment on la charge. Je vous disais que c'était vieux, le moteur électrique, regardez. Jeantot, il y a des fanatiques d'automobiles, là, non? Les purs de Jeantot, ça vous dit peut-être quelque chose, non? Donc, 1893. Hein. Et puis, les voitures à hydrogène, ben, on a dit que c'était la même chose. Hein. Et on a un réservoir d'hydrogène, mais il faut le remplir. D'où vient l'hydrogène? Alors, aujourd'hui, l'idée la plus répandue, pratiquement pour tout le monde, c'est un réservoir d'hydrogène, une pile à combustible. Elle utilise l'hydrogène et l'air pour fabriquer de l'électricité. On stocke l'électricité dans une batterie qui n'est pas forcément très très grosse parce qu'on peut fabriquer l'électricité au fur et à mesure et on fait tourner un moteur électrique. Voilà ici, réservoir d'hydrogène avec la pile à combustible ici et le moteur là-devant. Pareil, d'où vient l'hydrogène? C'est vieux comme tout. Première pile à combustible, 1842. Encore une fois, on pense aujourd'hui, ah, c'est un truc récent, moderne, tout ça. Ben non. C'est très très vieux. 19e siècle, on faisait des piles à combustible. Hein. Les batteries aussi, puisque la première batterie a été faite aux alentours des années 1800. Hein. Les sources d'hydrogène, alors d'où vient l'hydrogène? Ben, ça peut être le pétrole, évidemment. Là, on n'a pas gagné grand-chose. Sinon qu'au moment où elle fonctionne, elle ne rejette que de l'eau. Eh bien. Il y a des sources sous-marines, il paraît qu'il y a des petits volcans sous-marins qui produisent de l'hydrogène, je ne sais pas. Ça peut être l'hydrogène fatal. Alors fatal, ça veut dire de l'hydrogène qui est fabriqué, c'est le destin qui le fabrique, hein, dans les usines où en fait c'est un sous-produit. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on le brûlait. On le brûlait et puis ça partait dans les cheminées. Là. Depuis, on a appris à le récupérer et à fabriquer de l'énergie avec. Donc il y en a plus tant que ça de l'hydrogène fatal. Chez Solvay à Tavaux, ils utilisent l'hydrogène. Hein. Ils font tourner des génératrices, etc. Troisième solution, électrolyse de l'eau. Alors, évidemment, ça demande de l'énergie. Hein. À un moment donné, il faut bien qu'on ait de l'énergie quelque part pour fabriquer cet hydrogène. Alors, voilà, le schéma traditionnel est très vertueux. Le soleil nous fournit de l'énergie qui est récupérée par des capteurs. Les capteurs fabriquent de l'électricité. On électrolyse l'eau et on obtient de l'hydrogène et de l'oxygène. Et on stocke ça dans des bouteilles. Et on utilise l'oxygène, je crois qu'on ne l'utilise même pas, parce qu'on utilise l'air qui contient 21% d'oxygène, donc ça marche pour faire marcher une pile à combustible. Je vais faire verdir Monsieur Fournier en lui montrant un truc comme ça. Alors, batterie et moteur électrique. Oh, deux ou trois voitures comme ça. La jamais contente, 1899. Une tonne et demie, la moitié étant des batteries. Batteries au plomb, hein, à l'époque. 100 à l'heure, 105 km à l'heure, sur un obus comme ça. C'était un Belge, Camille Genazzi. Donc lui, bah, il chargeait ses batteries comme il pouvait. Hein. C'était pas à l'époque, on n'avait pas grand-chose pour faire. La Zoé, la fameuse Zoé de tout à l'heure, j'insiste pas, elle est bien connue. Les voitures Tesla américaines qui sont entièrement électriques et qui coûtent assez cher, hein, parce que si une Zoé, ça vaut, je sais pas combien, 25 000 ou quelque chose comme ça, une Tesla, au minimum, c'est 50 000 euros. Hein. Et encore, la petite, la Tesla 3, là. Mais c'est des voitures qui marchent très bien. Hein. Moi, un ami qui en a une, c'est une voiture absolument remarquable. Il faut accepter de vider son porte-monnaie. Bon, ça. Donc ça, c'est batterie et moteur électrique. Alors, hydrogène plus moteur électrique, on a pas mal de bus qui roulent comme ça. Là, je vous montre un exemple ici, c'est un des premiers qui ont fonctionné, c'était à Berlin. 10 fois 50 kg d'hydrogène, quand même, on a la place dans le bus pour stocker ça, à 350 bars de pression, vous voyez que ça date un peu, parce qu'aujourd'hui, la norme, je l'ai dit, c'est plutôt 700. Hein. 220 km d'autonomie. Pourquoi on est plutôt du côté des flottes captives? Parce qu'il n'y a pas de problème d'autonomie. 220 km, le bus a le temps de faire le tour de la ville, je ne sais pas quoi. Et puis, on peut avoir une station de remplissage, parce qu'il n'y en a pas des masses. Donc, on peut, quand on a toute une flotte de bus, se payer une station de remplissage d'hydrogène quelque part. Mobipost, projet de Dominique qui date d'il y a quelques années aussi. La Poste, donc, il y a mis au point, ils ont mis ça au point avec l'UTBM, l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, des petits véhicules qui marchent à l'hydrogène. Le projet doit être suivi, je ne sais pas trop. Je sais pas trop où on en est. Mais voilà, ça devait fonctionner à Lons, à Audincourt, et même à d'autres endroits encore. Avec d'ailleurs, toujours chez Mobipost ici, une idée de comment ça pourrait fonctionner de manière vertueuse. Hein. Les capteurs ici, ça fait de l'ombre, on range les véhicules en dessous. On fabrique l'hydrogène à partir de ça, hein, et puis on comprime. Là, il y a une station de compression d'hydrogène qui doit être là d'ailleurs. Et ça permet d'alimenter les véhicules de cette flotte captive. Je ne sais pas où ça en est. Mais on parle de véhicules du futur, donc après tout, peut-être que ce sera comme ça dans 20 ans. Hein. Aujourd'hui, il y a des véhicules qui font tonner l'hydrogène. Il y en a essentiellement trois. Il y en a eu d'autres, Mercedes en avait fait un aussi, mais ils ont laissé tomber. Honda Clarity, Hyundai Nexo, celle-ci est assez ancienne aussi. Ça fait pas loin de 10 ans qu'elle marche. Et puis la Mirai en japonais, comme vous savez, ça veut dire futur. Hein, non, vous parlez tous japonais, non? Non? Ah bon, bon bah, tant pis. Futur. Moteur électrique 113 kW, 1 tonne 850, tout ça, ça pèse lourd, hein, les batteries, ça pèse lourd. Et puis ça emmène la batterie et le réservoir d'hydrogène, on a droit aux deux là. Hein. 5 kg d'hydrogène à 700 bars, il y a deux réservoirs séparés, donc une autonomie de l'ordre de 500 km pour chacune des trois d'ailleurs. Ça roule, ça coûte 80 000 euros à peu près, et une fois qu'on l'a, il faut savoir où on recharge les réservoirs d'hydrogène, ça c'est autre chose. J'ai vu aussi, c'était à la COP21 à Paris, à l'exposition qu'il y avait au Grand Palais, des types qui fabriquaient un scooter à hydrogène, un petit réservoir d'hydrogène comme ça, qu'on mettait derrière la selle. Puis je dis au gars, mais c'est bien rigolo, mais je trouve où, moi, l'hydrogène? Vous habitez où? J'ai Besançon. Oh, facile, il y a une station à Dole. Je me vois partir avec mon scooter, faire les 55 km pour arriver à la station, qui doit être, je ne sais pas où, du côté de chez Solvay, j'imagine, je ne vois trop. Et puis voilà, et puis revenir, quoi. J'aurais fait 110 km pour remplir mon réservoir, c'était un problème. Hein. Ah, deux réalisations extraordinaires, pardon, voilà. Alors, batterie et moteur électrique, la Aspark, oh la chouette, quatre moteurs, un moteur dans chaque roue, enfin pour chaque roue, 2000 chevaux, c'est-à-dire 1500 kW à peu près de puissance, une tonne neuf, et ça roule à 400 km à l'heure. Il y a une batterie de 64 kWh, je vous disais tout à l'heure 15 kWh pour 100 km, donc avec ça on a une autonomie de l'ordre de 400 km. Mais pas à 400 km à l'heure. Hein. Si vous faites d'une pointe à 400 à l'heure, au bout de la ligne droite, il n'y a plus rien, c'est sûr. Hein. Et puis celle-ci, qui est promise pour 2024, qui a déjà roulé, hein, ça c'était en 2018, une voiture pour les 24 heures du Mans qui s'appelle LMP H24, donc LMP c'est le Mans en prototype, hydrogène pour 2024, on va attendre de voir si elle y arrive. Hein. Mais voilà, ça devrait être la démonstration que ça peut fonctionner. Quoi. Voilà, problème bien évidemment, on n'a pas de station de remplissage. En France, il y en a quelques-unes, il y a celle de Dole qui est là. Hein, voilà. Ça, c'est Sassenage, hein, c'est l'air liquide qui est installé là-bas, puis c'est à peu près tout, hein, peut-être ici. Les Allemands en ont beaucoup, enfin, il y en a beaucoup aussi dans le Nord, ici. Alors, un petit bilan. En voilà une qui fait semblant de voler, là. Hein. C'est un concept qui n'est même pas un concept car, c'est un concept de design graphique, c'est-à-dire qu'elle a été dessinée, mais elle est restée dans l'ordinateur. Hein. Elle s'appelle Calamaro Flying Concept. Voilà. Un concours de dessin qui avait été organisé par Porsche, d'ailleurs, il y a les petits anneaux de Audi, mais c'est Porsche qui avait lancé le deal. Hein. Ça, c'est la base de réflexion qu'on peut s'imposer. Si on veut que la voiture soit durable, il faut qu'on se rappelle ce que c'est que le développement durable. Développement durable, ça veut dire qu'on tient compte de l'écologie, bien sûr, mais qu'on tient compte aussi du social ou du sociétal, on dira plutôt aujourd'hui, c'est un peu plus large que le social, et puis qu'on tient compte de l'économique. Autrement dit, une voiture, il faut qu'elle respecte l'environnement, il faut qu'on puisse monter dedans, etc., enfin qu'elle serve à quelque chose, que, hein, et puis il faut qu'elle ne coûte pas 200 000 euros, et donc qu'elle ait qu'elle soit viable du point de vue économique. Viable, vivable, équitable, oui, le commerce équitable, c'est ça, c'est hein, économique et social, et puis durable au carrefour de ces trois piliers. Hein. Et ça, les gens qui parlent un peu de ces choses-là, n'oublient jamais ça, parce que quand vous écoutez les discours, ils vous parlent tout de suite de ces trois piliers, sans forcément les nommer comme ça, mais en montrant qu'ils font attention à l'argent, qu'ils font attention aux gens aussi, hein, et puis à l'environnement, quoi. Alors, évidemment, il y a plein de problèmes, hein, carburant, le recyclage de la voiture, l'utilisation de métaux rares qui dans les moteurs, par exemple, ou dans les batteries, du samarium, du cobalt. Le cobalt, il n'est pas classé dans les métaux rares, mais il est quand même sur la sellette, bon, tout un tas de produits comme ça. Alors voilà, développement durable, voilà du développement pas durable. La course, je vous lis le texte, hein, ça vaut le coup. La course ruineuse à l'hydrogène propre. La France, l'Allemagne et l'Europe s'apprêtent à miser des dizaines de milliards d'euros pour développer la filière. Mais les technologies sont loin d'être assez matures pour produire de l'hydrogène vert à prix compétitif. Voilà. Ben, quand on fait de la recherche, on n'est jamais rentable. Hein. Sinon, on n'est plus dans la recherche, on est dans les applications. Je ne sais pas ce que l'opinion dit des recherches qui sont menées, par exemple, sur ITER. On essaie de faire des recherches pour fusionner l'hydrogène et faire, non pas des centrales nucléaires à fission, comme elles existent aujourd'hui, mais des centrales nucléaires à fusion, ce qui est peut-être 10 fois plus compliqué. Alors, on peut dire la même chose. Qu'est-ce que c'est que ces arguments? C'est pas rentable, je ne sais pas quoi. On n'a même pas encore fait marcher ça, mais bon. Quelques atomes, on arrive à le faire, mais... quelques milliers d'atomes peut-être. Et puis en prime, on vous met évidemment des petites bagnoles ici dont tout le monde voit que c'est pas ça, c'est pas là-dedans qu'on va rouler, quoi, hein, pour ajouter un peu à ça. Voilà. Donc si vous tenez compte que de l'économique, aujourd'hui, vous roulez avec des voitures à pétrole. C'est très simple. Hein. C'est elle qui coûte le moins cher et c'est elle qui, en gros, voilà, fonctionne le mieux, quoi. Hein. Alors, les sources d'énergie, regardez ici l'essence. L'essence est extrêmement énergétique. Un kilo d'essence, 12 kWh, un litre, 10 kWh. On ne peut pas faire mieux. On fait mieux par kilo, hein, le méthane, 15 kWh par kilo, l'hydrogène, 33, mais en volume, il n'y a plus rien là, parce que le méthane est très léger, le gaz, non, le gaz de ville, hein. L'hydrogène encore plus léger. Donc le meilleur là-dedans, c'est évidemment l'essence, qui concentre l'énergie dans un volume faible, ou l'éthanol, bon, un petit peu du même genre, ici. Les batteries, ben les batteries, il en faut un paquet de kilogrammes de batteries pour arriver à stocker l'énergie. 200 Wh par kilo, je ne crois pas qu'on y arrive aujourd'hui, mettons, allez, admettons qu'on y soit, hein. Ce qui veut dire que pour avoir une autonomie moyenne, bah, il faut 300 kg de batterie. Hein. C'est ce qu'on voit dans les voitures. Hein. Alors qu'en essence, il faut énormément moins. Hein. Pour faire 300 km avec l'essence, il faut une vingtaine de litres. Allez, une vingtaine de litres. Ça fait 20 kg, quoi. Dans un réservoir très léger, en tôle. Hein. L'hydrogène, pareil, le réservoir est très très lourd, parce qu'il doit être extrêmement résistant. Voilà. Même pour 5 kg, on a un réservoir qui pèse des dizaines de kilos, je ne sais pas exactement combien, mais qui pèse très lourd. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, on a dit l'électronique et l'informatique. On nous parle d'un véhicule autonome. Il y a tout un tas de niveaux d'autonomie. En France, en Europe, on a 5 niveaux d'autonomie, 6 même. Si on admet qu'il y a un niveau zéro, qui est celui de la 4 chevaux, hein, où rien, mais il n'y a pas d'assistance. On ne prend pas votre place. Si les freins sont peut-être assistés, je ne sais pas quoi, mais la voiture ne fait pas les choses à votre place. C'est vous qui freinez. Hein. Vous avez des voitures aujourd'hui qui freinent toutes seules. Vous êtes sur l'autoroute, vous mettez le régulateur de vitesse. S'il y a une voiture devant qui ralentit, la vôtre va ralentir aussi. Hein. Donc ça, ça se fait. C'est ça, vraiment, l'autonomie, c'est ça. Donc niveau 1, c'est ça, conducteur assisté. On repère la voiture de devant, le radar repère la bagnole et adapte la vitesse à celle du véhicule de devant pour qu'on ne lui rentre pas dedans. Non. Niveau 2, contrôle de vitesse, contrôle de direction. Si vous sortez de votre voie, la voiture revient, etc. Hein. En gros, ben c'est d'ailleurs une Tesla que j'ai mis là. Voilà, ça c'est la Tesla, qui passe pour une voiture extrêmement évoluée. Elle est entre le niveau 2 et le niveau 3, hein, pas plus. Le niveau 3, délégation totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à certains moments, si vous êtes dans un embouteillage, par exemple, vous appuyez sur le bouton, je ne sais pas quoi, et la voiture se débrouille. Vous pouvez lire le journal, comme le monsieur, là. La voiture, si la file redémarre, elle redémarre, etc. Enfin, voilà. Hein. Donc là, on a un niveau d'autonomie qui est plus grand. Oui, ça existe déjà. Hein. Il y a une Volvo, la XC90, qui doit avoir un système de ce genre-là. Niveau 4, vous n'êtes plus dans la voiture. Alors, pas dans toute situation, mais par exemple, vous avez une petite télécommande, vous appuyez dessus, et la voiture vient, sort du garage, ou rentre dans le garage, enfin, bref, toute seule. Elle sait faire ces choses-là. Mais elle ne va pas être sur la route comme ça. Ça, c'est le niveau 5. Le niveau 5... Alors, niveau 5, qu'est-ce qu'il y a au niveau 5? Il n'y a plus rien. Cédric, là. Pas de tableau de bord. Là, je vous parle de la voiture du bas, la Volkswagen Cédric. Elle n'a plus de tableau de bord. Elle n'a pas de colonne de direction. Elle n'a pas de poste de pilotage. Elle n'a plus de pédale. Voilà, ça, c'est l'autonomie complète. Le pare-brise avant, c'est un écran de télé. On l'appelle avec une petite télécommande. Un bouton, un seul bouton. Hop, elle arrive. Elle vous reconnaît parce qu'elle a une caméra, reconnaissance faciale, donc elle voit que c'est bien vous, vous êtes le propriétaire, ok, elle s'ouvre, elle vous rentrez dedans et vous lui dites à Besançon, et vous prenez votre journal, faites ce que vous voulez, et la voiture part et elle vous y emmène. Il n'y a pas, ça n'existe pas aujourd'hui, hein, bien sûr. Hein. Ça existe avec Google Car, etc., mais c'est pas sur la route, hein, ça pose des problèmes. Inextricable. Si vous avez un accident, qui est-ce qui est responsable? C'est pas vous, conduisez pas. Ah, c'est qui? C'est le constructeur? C'est quoi? Rien que ça, voilà. Toutes les voitures que je vous ai montrées tout à l'heure, que ce soit la Tesla, la Volvo, etc., on vous dit bien, vous êtes en tout état de cause et toujours responsable. Hein? Quoi qu'il arrive, vous êtes responsable. C'est pour ça que les quelques accidents qui ont eu lieu avec des Tesla, alors il y en a une qui a eu un accident, ça y est, ça ne marche pas. En fait, le conducteur, il était en train de faire autre chose. Je ne sais pas ce qu'il faisait, s'il tripotait sa copine ou quoi. Il n'était pas au volant, quoi, en gros. Hein. Et puis, voilà, et puis il a débouché un camion, la caméra ne l'a pas vu, il y avait un angle mort, je ne sais pas quoi, un contre-jour. Chez Tesla, on a dit tout de suite, non, mais attendez, c'est une voiture qu'on conduit. Simplement, on a des aides à la conduite importantes, mais vous restez maître de votre véhicule et responsable. Hein. Donc, vous voyez, le niveau 5, on en est quand même assez loin. Elle est bien là, Cédric, là, des portes qui s'ouvrent sur le côté, tout ça là. Vous retrouverez ça sur Internet facilement. Alors à quoi elle ressemblera, je n'en sais rien. Ça, c'est une voiture qui est soi-disant qui vole, hein, je ne sais pas, qui a été présentée, pareil, hein, concept, bref. Je ne pense pas qu'elle volera, je ne pense pas qu'elle ira sur l'eau non plus, ça c'est des choses qui ne paraissent pas très réalistes. Ça pourrait être ça, la Cingoletta. Walter Molino qui a présenté ça en 62 à un journal italien, vous voyez, les gens sont dans des bulles, des cloches en verre, et ces cloches se déplacent toutes seules, c'est-à-dire que vous montez dedans et vous attendez qu'on vous transporte comme quand vous montez dans un ascenseur. dans un ascenseur et que vous appuyez sur le bouton du bon étage. Hein. Voilà, GM, celle-ci est soi-disant autonome. Ouais, elle est rigolote. Hein. La dernière année, c'est celle-là, je vous avais vu, la Citroën Ami, toute petite voiture, de ville, bien sûr. Hein. Symétrique, il y a les mêmes, l'aile avant, l'aile arrière, c'est les mêmes pour diminuer les coûts, etc. Électrique, elle est, évidemment, avec batterie. Et puis, on va bientôt la voir, elle va être vendue à la Fnac, je ne sais pas où, là, soi-disant. Bref. Je ne peux pas vous dire comment elle sera. En tout cas, j'ai mis ma voiture idéale. Donc, en tout cas, moi, j'ai du principe. Il faut parler de la voiture du futur, pas la voiture qui roulera dans deux ans, on s'en fout de ça. Hein, ça sera la même qu'aujourd'hui, un petit peu différente. Donc, si on se projette dans l'avenir, bon. J'ai écrit, elle circule dans un monde fini, elle satisfait aux impératifs durabilité. Bon, première chose, monde fini, ça veut dire les carburants fossiles, ça s'épuise, etc. Donc on cherche une solution pérenne. Voilà. On verra ce que ça peut être. Pas grand-chose, hein. Tout ce qu'on prend, c'est... vous le prenez dans la terre ou je ne sais pas où, et donc vous modifiez l'environnement, etc. Elle pollue peu, elle est totalement recyclable, bon, ça c'est un impératif bien sûr, elle dépense son énergie sans utiliser de ressources non renouvelables. Voilà, ça c'est... Alors voilà, en gros, quand on cherche, moi, j'aimerais bien qu'on me trouve autre chose, je vois qu'un truc qui fournit de l'énergie gratuitement, c'est le soleil, quoi. Hein, ITER existe sur le soleil. 6 millions de tonnes par seconde, c'est ça, perdues par le soleil, qui transforme l'hydrogène en hélium. C'est une énorme centrale nucléaire de fusion qui irradie, alors évidemment, ça irradie sur, 360 degrés, 4 pi stéradian, comme on dit. Hein. Nous, on en reçoit une toute petite partie. On en reçoit 1 kW par mètre carré. Hein. Face au soleil, au niveau du sol, on est à peu près 1000 watts par mètre carré. Bon, ça paraît évident, quelle que soit la façon dont on procède, que c'est ça qu'il faut récupérer. Les déchets nucléaires, tout ça, c'est sur le soleil. Hein. Les radiations qui ne sont pas bonnes pour nous, on a l'atmosphère qui nous en protège, en plus, c'est très bien, plus la ceinture magnétique, etc. C'est génial. Hein. Moi, je trouve que c'est génial. Ouais. Moteur électrique, on a vu que c'était quand même vachement bien. Un moteur par roue, traction intégrale, ça paraît un système très efficace hein, au fonctionnement, peut-être autonome, je ne suis pas sûr. Et peut-être deux définitions de véhicules. Quand on réfléchit, on se dit qu'on pourrait avoir une petite voiture pour la ville. Ce n'est pas les mêmes caractéristiques que sur la route. Et puis sur la route, ben, est-ce qu'on y va souvent? Si on n'y va pas souvent, peut-être qu'on n'a pas besoin d'une voiture comme ça. On en loue une quand on part en vacances, pourquoi pas hein. Ou l'inverse. On prend une voiture parce qu'on fait de la route, et puis quand on va en ville, ben, on loue une petite voiture comme il y a aujourd'hui, hein, électrique, etc. Bon, il y a des réflexions à mener là-dessus. Moi, j'ai des voisins, ils n'ont plus de voiture du tout. Ils font tout en vélo. Oh, moi, je les admire. Hein, moi, chapeau, hein, ils sont jeunes. Bon. Ils font tout en vélo, y compris trimballer les gosses et tout, y compris quand il pleut. Et puis, ils louent une voiture une fois ou deux par an pour faire déménagement ou pour faire partir en vacances, etc. C'est tout. Ah. Alors, voilà, d'autres possibilités. On roule moins. Bah oui, pourquoi pas. Je sais pas. Rouler collectif, d'accord, ça c'est une solution qui n'est pas neuve. Hein. Travailler à distance pour limiter, voilà, tous ces problèmes qui sont très actuels hein, d'ailleurs. Hein. Décentraliser la France, ben oui, parce que il serait temps qu'on puisse travailler chez soi ou pas loin de chez soi sans être obligé d'aller à la capitale ou à la préfecture. Voilà. Et ben voilà, et ben c'est bien, je vous ai laissé le temps de questions. Donc je suis désolé parce que je ne vous ai pas donné la réponse de quelle sera la voiture de demain, mais... Oui. Arrêtez. Donc...